France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui une parodie de justice dans la Russie stalinienne, les procès de Moscou.
Le masque de la trahison a été arraché de leur visage. Que votre verdict résonne comme le tonnerre purificateur du châtiment soviétique.
Deux mille ans d'histoire. Le 2 mars 1938, dans une salle de la maison des syndicats de Moscou transformée en tribunal, le procureur général Vichinsky réclamait la mort de quelques-unes des victimes de la plus grande répression policière du XXe siècle. Des hommes qui, quelques mois plus tôt, étaient au sommet du pouvoir. Boukharine, que Lénine avait surnommé naguère l'enfant chéri du parti, Rykov, qui avait dirigé le gouvernement soviétique, Yagoda, l'ancien chef de la police politique de Staline. Ils étaient condamnés à mort, comme l'avaient été quelques mois plus tôt d'autres dirigeants du parti et les plus hauts responsables de l'armée rouge, Kamenev, Zinoviev, Radek ou le maréchal Toukhachevski, tous fusillés, après avoir été forcés d'avouer les crimes absurdes dont les accusait Vichinsky.
Les voici, ces espions et ces mouchards de l'impérialisme japonais. Les voici, ces agents étrangers qui menaçaient nos frontières sacrées. Les traîtres et les espions contre notre patrie doivent être fusillés comme des chiens enragés. Notre peuple exige une chose, écraser cette pourriture maudite.
Nicolas Werth, bonjour.
Bonjour.
C'était en 1938, Vichinsky, le procureur général des grands procès de Moscou, qui entre 1936 et 1938 ont décimé les plus hautes sphères du régime soviétique, victime d'un système auquel vous venez de consacrer un livre, La terreur et le désarroi, Staline et son système. Alors un système répressif dont 70 ans après, on a encore du mal à comprendre pourquoi il a éliminé non pas des adversaires, mais des membres du Parti communiste soviétique et qu'il avait même porté au pouvoir 20 ans plus tôt.
Oui, il faut pour cela, je pense, se référer à ce traumatisme fondamental profond de Staline. Au fond, c'est à partir en mars 1923, dans son testament, Lénine, le fondateur du système, avait écrit cette phrase « Je propose qu'on démette Staline de ses fonctions de secrétaire général. Il est trop brutal. » Et donc, au fond, Staline doute de sa légitimité alors qu'il est au pouvoir, au suprême. Et donc, tous ses compagnons qui ont connu Lénine, qui ont été dans le premier cercle du pouvoir dès 1917 et après, savent cela. Et donc, c'est une des raisons, ça c'est une première raison.
Si ce testament, il faut le rappeler, n'a jamais été publié en 1956.
Bien sûr, hein, mais en fait, tous les gens haut placés dans le parti le connaissaient. Et puis, il y a évidemment cette autre phobie, disons, de Staline, c'est qu'au fond, il n'est pas du tout sûr de cette bureaucratie et de ces, au fond, de ces cadres qui gouvernent le pays, parce que d'abord, c'est un mélange à la fois de communistes, certes, mais aussi beaucoup de non-communistes qui datent encore de l'ancien régime. Et pour lui, évidemment, une des explications possibles de ce qui ne va pas, c'est évidemment le complot. La figure du complot est absolument essentielle dans ce système. Et il faut bien voir qu'avec l'élimination de tous ces cadres de la première génération, on va avoir parallèlement une promotion extraordinaire d'une nouvelle génération qui n'a pas connu ces années héroïques et ces années léninistes, qui a été formé lors du premier plan quinquennal dans les années 30, et donc qui est beaucoup plus, disons, formé fidèlement, c'est un tout autre personnel, moulé déjà dans le cadre au fond, stalinien.
Et Staline sera en quelque sorte le seul ou le principal survivant, justement, de cette équipe qui a pris le pouvoir en 1917, d'où d'ailleurs la volonté qu'il avait, Staline, en 1937, de justifier l'élimination de les purges qu'il va provoquer en invoquant le nom de Lénine et en parlant de lui-même à la troisième personne, Joseph Staline.
Le camarade Staline accomplira son devoir devant le peuple, devant la classe ouvrière, devant les paysans et devant l'intelligentsia. Que les députés soient des combattants intrépides, impitoyables envers les ennemis du peuple comme l'était Lénine. Qu'ils soient justes et honnêtes comme l'était Lénine. Qu'ils aiment leur peuple comme l'aimait Lénine.
Et c'était Staline en 1937, au moment d'ailleurs où il était en train d'ordonner, Nicolas Vert, il ordonnait non seulement l'élimination des dirigeants, on vient d'en parler, mais de procéder à une répression de masse. On l'a souvent oublié, on évoque toujours ces grands procès, mais à ce moment-là, il n'a pas seulement éliminé les élites du parti, il s'en prend à des centaines de milliers de soviétiques.
Absolument, on peut dire que les procès, petits ou grands, car on verra qu'il y a aussi des petits procès, des centaines de petits procès tenus dans les chefs-lieux de province, sont, on peut dire, la face publique de la terreur, la face que l'on va, dont on va parler. C'est un véritable mécanisme de prophylaxie sociale, ça permet d'expliquer toutes les difficultés. Mais à côté de cela, il y a une répression secrète, une répression que l'on ne connaissait pas et qui a été découverte donc dans les archives au début des années 90, dont on a encore assez peu parlé, qui sont les ordres opérationnels secrets du NKVD et du Politburo qui se solde par plus d'un million et demi d'arrestations et 800 000 exécutions.
On y reviendra, Nicolas Vert. Mais alors, de façon générale, il y a eu beaucoup d'explications, vous le rappelez dans votre livre, sur ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai que ça, quand même, ça peut paraître étrange. Et un certain nombre de gens, d'historiens, ont invoqué une espèce de dérapage du système, comme une gigantesque bavure qui aurait échappé en quelque sorte au contrôle de Staline. Pas du tout.
Oui, c'est en effet une thèse développée par l'école révisionniste américaine, c'est-à-dire une sorte de fuite en avant vers le chaos. Et d'ailleurs, il y a des parallèles qui ont été faits, qui sont tout à fait, à mon avis, inexacts avec les mécanismes de la révolution culturelle chinoise. Mais ce que montrent aujourd'hui les documents déclassifiés du Politburo, de la police politique, c'est qu'évidemment, au fond, c'est Staline qui tenait véritablement le système, qui ordonnait, qui gouvernait véritablement seul, parce qu'il y avait un Politburo d'une dizaine de membres, mais en fait, comme l'appelaient tous ses autres membres du Politburo, c'était lui le patron, c'était lui donc qui prenait les décisions, et pour la Grande Terreur, ils ont été en quelque sorte en tandem, en duo avec le commissaire du peuple à l'intérieur, Nicolas Iejov, et ils ont véritablement porté donc la responsabilité, évidemment, majeure, directe, de ces événements.
Iejov, chef d'une police politique redoutable, le NKVD.
Camarades, les ennemis voulaient diviser notre jeune République soviétique en morceaux. Mais nous avons le NKVD que dirige un fidèle stalinien, Nikolai Ivanovich Iejov. Vive notre cher ami créateur de l'humanité, le camarade Staline.
Le NKVD, vous le rappelez, Nicolas Vert, c'était effectivement l'instrument de la terreur et son chef Iejov y a joué un tel rôle d'ailleurs que je crois qu'on a appelé cette période de la Grande Terreur la Iejovchina, c'est ça ?
Oui, on appelait la Iejovchina en Union soviétique. C'était aussi le terme consacré bon, pour les années, dans les années 60-70, mais qui mettait au fond, au second plan, un peu le rôle quand même central absolument de Lénine. Mais je pense qu'il est important de comprendre, d'abord, bon, c'est un énorme appareil qui compte plusieurs centaines de milliers d'agents, même si dans la sécurité d'État, bon, ils sont à peu près 50 000, dans la sécurité d'État proprement dite, le NKVD, c'est l'ensemble des agents de la police.
L'ancêtre du KGB, en fait.
L'ancêtre du KGB, encore, oui. Et donc, je voudrais revenir sur une idée importante, c'est qu'au fond, on parle toujours de grande purge du parti. Or, je pense que c'est quelque chose de... Le terme est inexact, parce que la purge, c'est pour le parti. Mais là, je parlerai plutôt pour la Grande Terreur, d'immenses opérations d'ingénierie sociale qui d'ailleurs, au fond, pour moi, n'est que l'aboutissement radical et meurtrier d'autres grandes opérations d'ingénierie sociale, de déportation massive qui ont commencé
au début des années 30, qu'on appelait la découlakisation.
Voilà, oui. La découlakisation, c'est-à-dire au fond la déportation de plus de 2 millions de paysans dits riches, mais en fait ce sont ceux qui s'opposaient à la collectivisation, mais pas seulement des paysans, mais aussi de membres de l'intelligentsia, de pop, énormément de membres du clergé, qui ont été déportés en Sibérie. Ensuite, il y a eu d'autres opérations de police, de nettoyage des villes en 1933-1934.
Puis avec des conséquences terribles, une famine épouvantable, notamment en Ukraine. Alors quand ces grands procès, puis cette élimination, cette répression commence, elle choisit un prétexte, c'est en 1934, l'assassinat d'un hiérarque du parti qui était Kirov, qui était le chef du parti à Leningrad, Et ça a été servi de prétexte. On dit, au fond, c'est la preuve qu'il existe un complot, cet assassinat de 34.
Oui, parce qu'au fond, c'était le seul assassinat réel de toute cette histoire, au fond. Donc, puisqu'on imputait toutes sortes de complots imaginaires. Bon, là, on sait aujourd'hui, à peu près de manière sûre, que c'était un acte isolé. D'ailleurs, longtemps, on a dit que Staline avait commandité ce complot. Non, probablement pas. Rien ne le prouve. Oui. Mais en tout cas, il s'en sert comme prétexte, c'est le seul acte terroriste effectif qui a lieu durant ces années.
Et c'est la raison pour laquelle le premier des trois grands procès de Moscou, j'y reviens, eh bien, il est dirigé contre deux hommes qui étaient vraiment des compagnons de Lénine, Kamenev, Zinoviev, accusés justement en 1936 d'être responsables de cet assassinat. Il y aura deux autres procès. Il y aura aussi, ça a été très important, au même moment, l'épuration littéralement de l'armée. Et ça à un niveau énorme. Trois maréchaux sur cinq, dont Tukhachevski, qui avait joué un rôle énorme pendant la guerre contre les Blancs, et puis aussi 200 généraux sur 250. L'armée soviétique a été décimée, en tout cas sa direction.
Absolument.
Mais pourquoi, là ?
Alors pourquoi ? Il y a à la fois des raisons, encore une fois, personnelles de Staline contre Tukhachevski. Ils avaient eu un grand différend en 1920 à propos de la marche sur Varsovie. Mais globalement, c'est encore une fois cette idée que qu'à Staline d'un complot parmi ses cadres dirigeants, il croyait un complot parce que, évidemment, l'armée n'était pas un corps absolument docile. Enfin, il y avait des rapports toujours assez complexes entre le civil et le militaire. Et puis, encore une fois, il y avait toute une nouvelle relève de gens moins formés, mais qu'on pouvait remplacer. Alors, on l'a vu avec des résultats assez désastreux on est à 3 ans de la guerre. Et ça, ça a été une erreur terrible. D'ailleurs, ça me rappelle un très beau livre écrit encore dans les années 70 par Alexandre Nekritch, qui s'appelle « L'armée rouge assassinée », où il avait déjà bien analysé, au fond, tous ces mécanismes.
D'ailleurs, on dit même qu'il a peut-être été victime d'une intoxication de faux renseignements que lui auraient amené les Allemands, justement, pour provoquer, en faisant croire que Tukhachevski et les autres trahissaient,
c'est vrai.
Eh bien, en poussant Staline à éliminer, justement, la direction de l'armée rouge.
Absolument, donc ça a existé aussi. Et là, les Allemands ont joué, évidemment, une part non négligeable dans cette phobie du complot militaire.
Alors, ce qu'il y a de terrible dans ces procès, ce sont des parodies de procès au cours desquels on forçait les accusés à avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Comment en arrivait-on à leur faire signer des aveux alors qu'ils savaient très bien pertinemment eux-mêmes qu'ils n'en étaient pas responsables ?
L'aveu, comme le disait Souvarine, est une des questions les plus troublantes pour l'entendement humain. Mais je pense que, au-delà des méthodes de pression physique, psychologique, il faut savoir que
physique,
ces gens
voulait dire torture, par exemple.
Torture, psychologique, ces gens étaient pendant plus d'une année enfermés, incarcérés. On avait pris en otage les membres de leur famille. Donc, il y a toute une série donc de pressions physiques et psychologiques. Mais au-delà, je pense qu'il est très important de resituer ces aveux dans une culture politique et la culture politique communiste. C'est-à-dire qui va depuis l'autobiographie, toute une série de rites de passage, une culture spécifique où il y a une fétichisation du parti qui est l'étalon de toutes les valeurs, il y a une propension à une culpabilité imaginaire dès lors qu'on se sent exclu du parti, il y a au fond la désignation du parti comme étalon unique de toutes les valeurs, et au fond... Je pense que les aveux ne peuvent être compris que comme une sorte d'ultime capitulation, mais en prenant en compte tout ce qu'il y a avant, toute cette culture du parti. Au fond, comme le dit Bouharine dans une lettre, être exclu, expulsion du parti, fin de la vie. C'était la fin de la vie. Donc, ils étaient prêts à tout. Je pense que toute cette idée développée par Arthur Koestler dans Le Zéro et l'Infini, que c'était un ultime service rendu au parti, a une part de vérité. Bon, mais là, c'est une autre discussion.
Il y avait aussi des menaces ou des pressions sur la famille. Sûr, ça n'empêchera pas, par exemple, Zinoviev et Kamenev, sans doute faisant leurs propres aveux, ça n'empêchera pas leurs enfants, parce qu'on tuait même des enfants. Hein.
Oui, on expulsait absolument.
Leurs enfants d'être tués.
En prison ou tués, et leur femme également.
Et puis des promesses éventuellement de grâce. Alors, il y avait, vous avez cité Boukharine, il y avait aussi peut-être l'idée, je sais que je ne suis pas coupable, mais je signe parce que je ne veux pas que le parti, justement, qu'on révèle que le parti se trompe. Oui, donc, c'est une espèce de sacrifice. Alors, vous citez dans votre livre une lettre qui est bouleversante de Boukharine, qui écrit à Koba. Koba, c'était le nom de son ami Staline, c'était le nom de guerre autrefois. Et il lui dit, je te demande une dernière fois pardon, un pardon spirituel. Je te serre dans mes bras en pensée. Adieu pour les siècles des siècles et ne garde pas rancune au malheureux que je suis. Alors qu'il lui dit à Staline, je ne suis pas coupable, mais en même temps, il lui dit, je suis ton ami. C'est extraordinaire, cet homme qui va le condamner et qui reste malgré tout l'ami de Boukharine. Alors cette lettre est bouleversante, elle est datée de décembre 1938, c'est-à-dire 37,
lettre, oui,
quelques semaines avant justement le procès de Moscou. Il allait comparaître le 2 mars 1938 devant le procureur Vyshinsky.
Asseyez-vous.
Ясно для всех.
Tous les ennemis et saboteurs ici présents, qu'ils se cachent sous le drapeau de Trotsky ou de Boukharine, ne font plus partie des courants politiques du mouvement des travailleurs. Ils se sont transformés en une bande sans principes et sans idéaux, une bande d'ennemis, de saboteurs, d'espions et d'assassins professionnels. Ils doivent être écrasés et détruits sans merci.
Et c'était Vyshinsky, encore une fois, au dernier des grands procès de Moscou, à l'issue duquel, d'ailleurs, 18 des 21 accusés, dont Boukharine, ont été fusillés. Alors, ces procès sont connus, Nicolas Vert. D'ailleurs, ils étaient publics, ils ne se déroulaient pas à huis clos, alors que, au même moment, se produisaient des centaines de petits procès, comme vous les appelez, visant des personnes ordinaires, des anonymes, que très peu de gens connaissent. On vous dit même qu'au fond, ces grands procès ont servi en quelque sorte d'écran de fumée. On mettait en avant ces grands procès en disant, voyez, ils sont coupables, mais derrière tout ça, ça permettait d'éliminer. Alors là, vous donnez un chiffre absolument hallucinant, 800 000 personnes fusillées.
Oui, 800 000 personnes fusillées en 16 mois, donc il faut se rendre compte de ce chiffre. Au fond, 50 000 par mois, 1500
En 16 mois, parce que ça commence en juillet.
Ça c'est une directive du NKVD. Voilà. Oui. Du NKVD, donc la fameuse directive 00447. Et ce qui est extraordinaire dans cette directive, qui vise... il y a eu une douzaine d'opérations comme ça, une douzaine de directives, mais la plus importante, c'est celle donc, du 30 juillet 1937. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle applique un principe de quota, c'est-à-dire que chaque région, chaque république avait un quota d'ennemis à soit, il n'y avait que deux possibilités de verdict pour ces commissions extrajudiciaires de trois membres qu'on appelait les Troïkas du NKVD, de la police politique, soit peine de mort, soit 10 ans de camp. Et chaque région avait un certain nombre de quotas. Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'on a retrouvé dans les archives les estimations chiffrées données pour Moscou par Nikita Khrushchev, qui était le premier secrétaire, car il faut bien voir que ce n'était pas seulement la responsabilité du NKVD, mais aussi, puisque dans la Troïka, il y avait un responsable du NKVD et un responsable du parti, Khrushchev lui-même, le 10 août 1937, a donné à Staline, a répondu, a dit, écoutez, à Moscou, il y a 35 000 éléments à éliminer en première et en seconde catégorie.
Alors, ces éléments, vous les citez, éléments socialement nuisibles, ex-coulac, ça recouvrait quoi en réalité ?
Ça recouvrait en fait, des catégories très vastes. Mais en gros, ce sont tous ces gens qui ont été marginalisés, exclus de la nouvelle société socialiste. Les ex-coulacs, ce sont ces gens qui ont déjà été déportés en Sibérie, au Kazakhstan, quelques années auparavant. Mais un grand nombre d'entre eux s'étaient enfuis de déportation. Donc on va les rattraper, on va les exécuter cette fois-ci. C'était des petits commerçants, enfin beaucoup d'ex, ce qu'on appelait les ex, c'est-à-dire les ex-nobles, les ex-fonctionnaires tsaristes. Il y a un vaste panorama, au fond, qui va bien au-delà, évidemment, des communistes, des membres du parti, puisqu'au fond, sur ces 800 000 fusillés, on a à peu près 45 à 55 000 communistes, tous les autres étant, justement, ces gens marginalisés, exclus de la nouvelle société socialiste, mais déjà sur une longue durée, depuis tout un certain nombre d'années.
Ou tout simplement soupçonnés. Hein. Alors, il y avait beaucoup d'intellectuels, il y avait des scientifiques, je crois que Tupolev, alors étaient déportés, hein, parce qu'il y avait deux catégories. Déportation, voilà. Camp, ou fusillés. Et alors, Tupolev a été mis dans un camp. Et puis alors, il suffisait qu'une usine, il y ait un incendie, vous le rappelez, Nicolas Werth, et on soupçonne aussitôt plusieurs ouvriers de sabotage. Il suffisait qu'on habite près d'une frontière et brusquement, on devenait soupçonné d'espionnage absolument. Au profit du Japon, qui était évidemment en Extrême-Orient l'ennemi, de la Pologne.
La Pologne, oui.
C'était absurde. Il y avait, je crois que les philatélistes même, il suffisait aussi de tout simplement être mal vu dans sa région par le commissaire politique.
Absolument. Et donc là, c'est au fond la face cachée de la grande terreur. Là. Et évidemment, on a retenu en Occident essentiellement ces grands procès spectacles, mais jusqu'à présent, on connaît encore très mal. J'ai écrit un certain nombre de papiers là-dessus, mais on connaît très mal encore la grande terreur sous sa face cachée.
Et tout cela avec la bénédiction des nouveaux cadres du parti, promis d'ailleurs un brillant avenir, comme Mikoyan ou comme Nikita Khrushchev. Anastas Mikoyan.
Dans le combat contre ces repères de fascistes, d'espions et de saboteurs, l'armée des agents soviétiques a écrit une page glorieuse de l'histoire de la Révolution, sous la direction du remarquable bolchevique, le commissaire stalinien Nikolaï Ivanovitch Iejov. Khrushchev, nous avons gagné le combat contre les capitalistes, les propriétaires, les peuples, les coulags, les contre-révolutionnaires, les trotskistes, les zinoviévistes, les opportunistes qui empêchaient la construction du socialisme dans notre pays.
Extraordinaire cet archive de Khrushchev en 1938, l'homme qui, 18 ans plus tard, allait dénoncer les crimes de Staline, mais qui lui-même était partie prenante. Oui. Est-ce qu'ils y croyaient à ces crimes ?
Écoutez, finalement, comme montre la correspondance entre les membres du Politburo, au fond, oui, ils croyaient en l'existence d'un complot, de sabotage. Il y avait tellement de dysfonctionnements dans l'industrie, dans l'agriculture, finalement, dans ce pays qui est en plein bouleversement, qu'on n'imputait pas à une erreur humaine, mais véritablement à un complot en permanence. Et ce qu'il faut bien noter, c'est qu'au fond, à son fameux discours secret au 20e congrès, Khrushchev,
en 1956,
n'a mentionné qu'une toute petite fraction des victimes, essentiellement les cadres du parti. Oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il y a eu un pré-rapport secret, un pré-rapport Khrushchev, écrit donc par Pospelov et une commission qui s'était réunie peu de jours avant le 20e congrès et qui parlait au fond de toutes ces répressions de masse. Évidemment, Khrushchev n'en dit mot, puisque lui-même a été un agent majeur de ces opérations de masse, au moins à Moscou et ensuite en Ukraine, où il est envoyé au début 1938.
Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en Occident, on les a connus, ces procès, puisqu'ils étaient publics. Je parle des grands procès de Moscou, je ne parle pas des procès de masse. Et il y a des gens qui approuvaient ou qui fermaient les yeux. Romain Rolland, Paul Vaillant-Couturier disaient ben, « c'est normal ». D'autres fermaient les yeux, peut-être parce qu'on attendait un rapprochement avec l'Union soviétique, ce n'était pas le moment de la condamner. Alors ces procès s'arrêtent en 1938, pour quelles raisons ? Je rappelle d'ailleurs, vous le rappelez, que Iejov lui-même sera éliminé en 1939, peut-être parce qu'il en savait trop, justement.
Il en savait trop. Il faut voir qu'au fond, ces procès, oui, en effet, étaient très connus en Occident. Et d'ailleurs, dans la presse, j'ai épluché un peu la presse française entre 1936 et 1938. On en parle, c'est l'événement qui est le plus commenté depuis la Révolution d'octobre, enfin, concernant l'Union soviétique. Mais au fond, il ne faut pas oublier que 1936 et 1937, c'est quoi ? C'est le Front populaire, on sent la guerre arriver, la menace fasciste. Et donc, au nom de l'antifascisme, il y a un syllogisme très simple pour la gauche française. Au fond, Staline égale antifasciste, Trotsky contre Staline. Et donc, parce qu'au fond, derrière les procès de Moscou, il y a quand même le grand absent qui est
Trotsky. D'ailleurs, on accuse les gens des procès d'être trotskistes. Mais lui, il crée une internationale.
Voilà, et Trotsky, c'est l'homme orchestre caché derrière, au fond, toutes ces manipulations, ces complots.
Et donc, assassiné par Staline à Mexico, ensuite, au fond, dernière victime aussi.
Dernière victime, il ne faut pas l'oublier. Et donc, Trotsky contre Staline, donc... Trotsky, fasciste, au fond. Et donc, ce syllogisme très simple a évidemment joué un rôle très important dans cette extraordinaire manipulation.
Et avec des conséquences énormes, fragilisation de l'armée.
Et puis,
discrédit, parce qu'on ne peut pas imaginer pire, n'est-ce pas, pour discréditer un régime, discrédit, bien sûr, du régime soviétique. Merci en tout cas, Nicolas Vert, de nous avoir rappelé cette histoire, cette grande terreur. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de plusieurs de vos livres. Le dernier, La terreur et le désarroi, Staline et son système, qui vient de paraître aux éditions Perrin dans la collection d'Impulse, ainsi que Les procès de Moscou, 1936-1938, récemment réédité en poche aux éditions Complexes, et enfin L'île aux cannibales, 1933, une déportation abandon en Sibérie, donc que vous avez signé chez Perrin. À lire aussi sur les assassinats politiques en Union soviétique puis en Russie depuis 80 ans, Le laboratoire des poisons de Lénine à Poutine, d'Arkady Vaxberg, édité chez Buchet-Chastel. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Sophie Moreno et Clotilde Le Thomas. Documentation et archives sonores, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Félix Dagès-Labré. Réalisation, Anne Comilac.